Buenas noches, informa Jonathan Mehta para acá en Radio Reca en Español, en esta actualización especial de las 9 de la noche. Estados Unidos criticó duramente a Israel en el debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto de la guerra en Gaza. El representante estadounidense en el debate, John Kerry, dijo que la guerra es una de las más terribles de la historia en términos del número de trabajadores humanitarios asesinados. Estos incidentes son inaceptables. Estados Unidos teme que Israel no lo haya hecho. Basta con proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles, afirmó el representante estadounidense. Según él, la política de Washington respecto de Gaza dependerá de acciones inmediatas de Israel. Mientras tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que no hay intención de colocar a estadounidenses o expertos militares en el círculo de toma de decisiones operativas de Israel. Kirby dijo en respuesta a la pregunta de nuestros reporteros que Israel es independiente y tomará decisiones de manera soberana. Mientras tanto, Estados Unidos está aumentando la presión sobre Israel para que siga adelante con el acuerdo de rehenes. El jefe de la CIA celebrará una cumbre en el Cairo, pero Israel amenaza con no asistir sin una respuesta de Hamás. Nuestros reporteros informaron que en Israel temen la presión estadounidense para que cese el fuego incluso sin un acuerdo. Nuestros reporteros también informaron que hasta el momento Israel no ha recibido una respuesta oficial de los mediadores sobre la propuesta de compromiso. Sin embargo, el medio CNN estaría informando que Hamás habría rechazado la propuesta de Israel. El ejército reacciona a la publicación en el medio The Guardian, según la cual la identidad del comandante de la unidad 8200 israelí fue revelada debido a una violación de seguridad, y dicen que se trata de un problema de funcionamiento. El ejército dijo que el asunto será investigado para evitar que se repitan casos similares en el futuro. El periódico británico The Guardian informó hoy que el fallo de seguridad fue provocado por un libro escrito por el comandante de la unidad, Yossi Shariel, hace 3 años y publicado en Amazon. En el libro hay datos personales que permitirían llegar a la identidad de aquel oficial. Hay una sospecha de otro incidente antisemita en Alemania, en la ciudad de Oldenburg, esto es en el noroeste de Alemania. Desconocidos arrojaron una bomba molotov a la puerta de la sinagoga. No hubo heridos, pero el lugar quedó dañado. Un responsable, alto responsable de la policía local, condenó el ataque y dijo que hasta que se esclarezcan las circunstancias, se reforzarán las medidas de seguridad en el lugar. El alcalde expresó su solidaridad con la comunidad judía y dijo que el intento de convertir la institución judía de la ciudad en objetivo de un ataque es completamente inaceptable. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que habrá sin lugar a dudas una respuesta iraní al asesinato de los altos funcionarios en Damasco. En un discurso retransmitido a distancia, Nasrallah dijo que no especificaría dónde, cuándo y cuál sería la naturaleza de la respuesta, pero según él, Irán no toleraría un ataque a su consulado y a su soberanía. También dijo que la región está llegando a una nueva etapa y todos deben prepararse para ella y para todas las posibilidades. Respecto a los daños sufridos por su organización, Nasrallah afirmó que los combatientes están preparados a pesar de todo y que si quiere lanzar 100 misiles a los altos del Golán, puede hacerlo. Si habrá víctimas o no, dijo Nasrallah, esto es una guerra, así se transmitió en el programa del día de hoy. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que la preparación y la vigilancia no son sinónimos de pánico y miedo. El enemigo fue duramente golpeado en todas partes y por eso está buscando formas de responder. Estamos preparados con una defensa de varios niveles, afirmó Gallant durante una visita a la base aérea de Tel Nof. El ministro del Likud, Dudi Amsalem, afirmó ayer en el Gabinete Político y de Seguridad que la asesora jurídica del gobierno, Gali Barad Miara, es una enemiga del pueblo y que ella es culpable. Los miembros del gabinete Eisenkot y Gantz advirtieron en el debate contra el discurso contra los servidores públicos pero Amsalem no se retractó. Se comporta de manera escandalosa como el último de los políticos y permite los desmanes y las amenazas a la vida del primer ministro. Ella no lo permitió en la casa de Bennett, decía Amsalem. Anoche se produjo un inusual ataque a tiros en lo que es el Valle del Jordán, que no dejó víctimas. Terroristas jordanos dispararon contra una patrulla del ejército cerca de uno de los cruces fronterizos en el norte del Valle del Jordán. Nuestros reporteros informaron que se detectaron 3 impactos en el vehículo. Las fuerzas respondieron al fuego en el lugar del tiroteo, pero no se detectaron tampoco aciertos. Hasta aquí informó Jonathan Mehta para acá en Radio Reca en Español. Nosotros volveremos a informarnos y a encontrarnos mañana a las 9 de la noche con un nuevo informe de situación. Y hasta tanto, Shabbat Shalom desde Jerusalén.
ואת לא כאן כמה ציפורים ינדדו ברוח ואיך יכול להיות שגשם בחלון דופק מי אותך מחבק מי מחסה אותך בלילה שלא יהיה לך קר שלא יהיה לך קר ומכל בוקר מסדר לך ברוך את כמה עוד שקיעות יעבו עלינו כמה עוד זריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן שדות האש הפכו ירוקים בינתיים עוד הם קלנית לא בין שקדיה והשומנים ענני תפילות נשואות אלייך כי איך יכול להיות
Économie, consommation israélienne, l'analyse et l'expertise de Yael Ifra. Yael, bonsoir.
Bonsoir Yael.
Ravie de vous retrouver. On avait décidé de parler de cette loi de l'enrôlement. Aujourd'hui, ça a été un vrai tremblement de terre avec cette décision de, enfin, la décision de la Haute Cour de justice affirmée et annoncée par Gali Be'Arav Maharal, la conseillère juridique du gouvernement. Faites-nous un petit peu d'ordre dans tout ça.
Quelle journée, Yael, hein. Oh, c'est incroyable. Oui, une journée, ça fait très longtemps que je suis quand même que je suis la politique et que je suis à l'intérieur de la politique en Israël. Et franchement, j'en ai eu peu des journées comme ça, quelques-unes, mais là, c'était absolument un feu d'artifice. Ouais. Alors, pour faire un peu d'ordre, je voudrais juste... en fait, personne ne comprend très bien ce qui se passe parce que c'est quand même assez technique.
Et puis, ça change tout le temps.
Ouais, et puis pas seulement, il faut comprendre le contexte. Sans rentrer vraiment dans des grands détails, je voudrais juste expliquer pourquoi on est arrivé là, pourquoi la Cour suprême a été sollicitée, pourquoi il y a eu un conflit avec la conseillère juridique du gouvernement, et tout ça, et comment on en est arrivé ce soir à ce point. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Israël, en fait, il y a eu pendant de nombreuses années je passe pas sur le... On parlera après du contexte, hein, d'accord, mais des exemptions de conscription, donc pour les jeunes ultra-orthodoxes, on va dire haredim, ça ira plus vite et tout le monde comprend le mot, des jeunes haredim donc, qui étudient dans les yeshivot, de 18 ans jusqu'à des âges qui ont varié au cours des années. Mais en tout cas, il y a eu à chaque fois quelque chose qui était organisé par la loi ou par des rallonges, on demandait à la Cour suprême de donner du temps pour réfléchir, on essayait des formules qui ne marchaient pas. Tout ça, c'est depuis l'annulation de la loi Tal, hein, qui avait annulé le service militaire pour les Haredim. En 2014, elle a été annulée par la Cour suprême, parce qu'elle était inégalitaire. Et donc, ça fait 10 ans qu'on se traîne cette histoire de encore 6 mois, encore 3 mois, on va donner une réponse, on va essayer de nouvelles formules, etc. Donc, on peut quand même dire que la Cour suprême a été extrêmement patiente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une loi qui avait été passée et qui permettait d'exempter de façon temporaire les étudiants de Yeshiva, et cette loi a expiré au mois de juillet. Et à ce moment-là, la Cour suprême a demandé au gouvernement d'arranger les choses de façon définitive. On ne peut pas toujours se baser sur des choses qui étaient temporaires. Et donc, le 1er juillet, donc c'était le nouveau gouvernement, Yael, on était encore en pleine réforme judiciaire, vous vous en souvenez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de faire passer une loi, puisqu'on était en pleine vacances de la Knesset, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres, comme tous les dimanches, et puis tout simplement a donné la compétence, ou le droit plutôt, au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de ne pas appliquer la loi de conscription. Ils ont dit, bon, il n'y a pas pour l'instant de loi qui organise ça, on est censé faire venir tout le monde, bon ben toi, t'es ministre de la Défense, tu vas déclarer que c'est pas grave, pour l'instant on n'applique pas la loi. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé, sauf qu'évidemment il y a eu énormément de requêtes qui ont été présentées à la Cour suprême, parce que on ne peut pas donner à un simple ministre la compétence de ne pas faire appliquer une loi sur laquelle, donc qui est une loi du service militaire, qui est une loi importante de l'État d'Israël.
Elle fait partie des lois fondamentales
d'égalité. Non, elle fait pas partie des lois. Elle fait pas partie de. Enfin, oui, elle fait partie des lois parce qu'il y a une loi socle qui est l'armée d'Israël. Donc dedans, il y a le service militaire, mais elle n'organise pas exactement les conditions du service militaire. Mais oui, et en tout cas, c'est une loi qui... Enfin, en tout cas, ça touche à l'égalité entre les citoyens. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'a pas reconnu à un simple ministre la capacité au sein de son ministère de faire appliquer cette... de ne pas faire appliquer la loi. Donc, depuis le mois de juillet, on est dans cette histoire de la Cour suprême qui demande au gouvernement de faire une loi, une nouvelle loi, le gouvernement qui dit « je travaille dessus, laissez-moi encore du temps, je travaille dessus, laissez-moi encore du temps », des rallonges, la guerre, etc. Et là, on arrive en fin de course, puisque le 31 mars, le gouvernement était censé présenter une loi. Alors évidemment, il ne s'est rien passé, et ce n'est que cette semaine, en début de semaine, hein, donc dimanche, que le ministère de la Défense a sorti ce qu'on appelle en hébreu « Arlatat Mahlitis », ça veut dire c'est une décision de Conseil des ministres qui dit qu'il va y avoir une loi et qui présente le résumé de cette loi. Voilà, donc c'est ça, c'est pour ça que personne ne comprend rien cette semaine. Il n'y a pas de loi, mais on sait déjà ce qu'il va y avoir dans la loi puisque le gouvernement a fait une espèce de d'annonce. C'est exactement ça, c'est une sorte de déclaration d'intention. Et donc c'est dans cette déclaration d'intention-là que l'on voit que donc le gouvernement a l'intention d'augmenter l'âge de l'exemption jusqu'à 36 ans, pardon. Donc ça c'est qui est à 35 ans, pardon, qui est à 26 ans aujourd'hui, qu'il ne fixe pas de sanctions, qu'il ne fixe pas d'objectifs de conscription, etc. Et c'est sur cette base-là que la conseillère juridique au gouvernement, Gali Baharav Niara, déclare que cette loi ne convient pas, qu'elle n'apporte rien par rapport à la situation antérieure, qu'on ne peut pas dire de cette loi, même si elle n'existe pas encore, on est d'accord, qu'elle va organiser les choses, et elle dit qu'elle compte dire à la Cour suprême que ça ne convient pas. Voilà. Donc s'engage quelques jours de négociations très très courtes. Le gouvernement renonce à l'histoire des 35 ans et c'est ce qu'on appelle en langage politique, vous connaissez ça Yaël, une chèvre. C'est qu'en fait quelque chose d'énorme qu'on fait rentrer dans la loi pour que comme ça quand on l'enlève, c'est un peu comme le caillou dans la chaussure, on dit oh là là, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Donc ils enlèvent ça, mais il reste quand même des tas de problèmes dans cette loi. Et donc Ghali Bahrav Mihara doit donner son avis sur cette intention à la Cour suprême. Et hier soir, elle fait fuiter son intention en disant qu'elle a l'intention de dire que ça ne va pas et que c'est bon, tout expire. Le 31 mars, comme prévu, nous n'avons donc pas de loi. Donc on revient à l'état antérieur des choses. L'état antérieur des choses, c'est que dans l'État d'Israël, à 18 ans, tout jeune homme et toute jeune fille doit faire l'armée, yeshiva ou pas yeshiva. Il n'y a pas d'exemption qui tienne. Et deuxième chose, elle relie cet état-là au fait que du coup, on ne pourra pas financer ces jeunes, leurs études, si on peut utiliser ce mot-là, en yeshiva, donc les 700 shekels qui reçoivent de l'État plus toutes sortes d'autres avantages, puisque ils sont étudiants en yeshiva de façon illégale, puisqu'ils devraient être à l'armée. Donc c'est deux coups près qui tombent. Elle envoie cet avis, le gouvernement n'a donc pas de loi sous la main, et ce soir, la Cour suprême tranche, et comme vous l'avez expliqué, Yaël émet donc une sorte de référé, hein, donc un décret provisoire, en disant que effectivement tout est nul et non avenu. Il est interdit désormais au ministère des Finances de financer ses étudiants qui devraient être à l'armée. Et évidemment, l'armée doit s'organiser pour commencer à les enrôler. Bon, ça c'est sur le papier, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé et le déroulement de cette folle semaine.
Alors, on entend des réactions qui ont commencé à fuser de tous les côtés, notamment celle d'Arié Dery, le chef du parti ultra-orthodoxe séfarade Chasse, qui dit le signe de Caïn, c'est une honte, un pays qui a besoin de la miséricorde du ciel, plus que des soldats. On n'a pas encore entendu la réaction de Yahadut HaTorah, mais j'imagine que ça va tomber aussi. Ils sont sur le point de réfléchir à faire tomber ou pas le gouvernement. La mort de Gour a dit qu'il fallait absolument partir du gouvernement. On voit maintenant que le député Tzvi Sukkot a dit que Nasrallah Khamenei et Sinoir avaient ouvert le champagne. Est-ce que vous pensez que cette...
Vous n'avez pas entendu.
Ah ben ça vient de tomber, là, je viens de voir ça sur les dernières dépêches. C'est pas mal aussi. Est-ce que vous pensez, toute blague à part, que le gouvernement risque de tomber, puisqu'on sait que c'est une condition sine qua non de tous les Haredim dans la coalition, si on maintient ce statu quo de vous engagez pas nos Haredim. Si vraiment...
J'en sais rien, mais j'en doute très très fort, Yaël. Hein. Je pense que cette occasion, ce gouvernement se reproduira pas une deuxième fois dans l'histoire d'Israël, ou alors c'est que les non-orthodoxes auront quitté le pays et auront levé les bras. Je pense que c'est surtout ce qui est en train de se passer qui est absolument affolant. S'ils regardent ça de l'extérieur, il s'agit quand même d'appliquer une loi d'égalité qui est en pleine guerre dans un pays où le ministère de la Défense, en fin de Sahel, a fait ses comptes et a annoncé qu'il a absolument besoin de façon urgente de 4 000 à 7 000 soldats, parce que vous savez, il y a des milliers de blessés. Plus de 600 soldats sont morts depuis le début de la guerre. Il paraît particulièrement indécent de vouloir maintenir à toute force assis sur une chaise pendant 6 ans des jeunes gens en bonne santé qui ont donc, comme vous, comme moi, 2 bras, 2 jambes. Moi, j'ai 2 filles qui sont à l'armée. Je ne comprends pas très bien comment on peut en appeler au ciel, à la miséricorde, au judaïsme ou aux valeurs du judaïsme pour justifier. Non,
surtout qu'en plus, on leur propose un truc adapté, c'est-à-dire qu'on leur propose quelque chose où il n'y aura pas de femmes.
Mais même pas, je veux dire, même si ce n'était pas le cas, de toute façon, être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Bon, on ne va même pas rentrer là-dessus. En fait, on a créé en Israël, sur les 75 dernières années, on a créé un monstre. Il n'y a pas d'autre mot. On est parti de David Ben-Gurion qui a accordé au Chazon Ish l'exemption pour 400 élèves de yeshiva, avec un nombre d'élèves qui était relativement faible, qui est resté faible jusqu'en 1977, hein, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin. Il y avait à peine en 1977 800 étudiants de yeshiva qui ne faisaient pas le service militaire. Ça représentait 2,5% de l'ensemble des soldats mobilisables, enfin des personnes éligibles au service militaire. Mmh. Aujourd'hui, on est à 23%, hein, donc ça paraît complètement, évidemment, complètement fou. Et à partir du moment où les ultra-orthodoxes ont fait alliance avec les différentes coalitions, quelles qu'elles soient, et que, donc, évidemment, ils ont une très forte natalité, une population qui double tous les 25 ans, eh bien, ils n'ont eu de cesse que d'élargir cet avantage, qui, d'un avantage, est devenu un droit. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'est devenu un droit. Et non seulement ils sont exemptés de service militaire, mais on les paye pour ça. Cela coûte à l'État presque 2 milliards de shekels de financer chaque année les yeshivot. Des personnes sûrement très très bien intentionnées aux États-Unis, en France et dans toutes sortes de pays occidentaux font des dons pour financer des kollels qui permettent donc à ces jeunes gens de ne pas faire le service militaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi d'exemption de service militaire, c'est une double punition, même une triple punition. Pourquoi ? Parce que non seulement ces jeunes gens donc ne sont pas au service militaire, ils ne font pas l'armée, mais la loi leur interdit de faire quoi que ce soit d'autre pendant toute la période d'exemption qui court aujourd'hui de l'âge de 18 ans à l'âge de 26 ans. Ils doivent littéralement rester enfermés à la yeshiva pendant ces 6 ans-là. Ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de quitter le pays seulement une semaine par an avec une autorisation spéciale. Et donc, ça veut dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas faire d'études, évidemment, hein, parce qu'ils ne vont pas aller apprendre un métier pendant ce temps-là. Donc, en fait, on condamne des jeunes gens en pleine santé, au sommet de leur forme, à rester enfermés dans une institution religieuse, à ne pas travailler, donc à ne pas produire pour la société, à ne pas payer d'impôts. Donc, non seulement on les paye, mais on perd des revenus. Quand ils sortent, ils n'ont donc pas fait d'études, ils ont souvent des enfants, et ça va être très, très compliqué de rattraper. Et donc, en fait, c'est une sorte de soustraction de force d'une partie des forces vives d'un pays que l'on va enfermer. Donc ça, c'est une problématique. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes en politique, aussi bien au ministère des Finances que de certains hommes politiques, qui disent qu'il faut détacher cette interdiction de travailler de la loi d'exemption. Ils disent, bon, ne faites pas l'armée, ok, très bien, restez à la yeshiva pendant la durée du service militaire, mais après, il faut travailler. On ne peut pas faire cette situation où, en fait, on laisse les gens enfermés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que cela sert de façon très importante les partis ultra-orthodoxes, parce que pendant que vous les avez enfermés à la yeshiva, eh bien évidemment, vous pouvez leur avoir une mainmise politique sur eux, et c'est la clé du pouvoir des partis ultra-orthodoxes. Et la façon dont le gouvernement qui a été formé l'année dernière, donc depuis le début janvier de l'année dernière, a tout misé sur cette histoire d'exemption de budget des yeshivot, bon, pas seulement, mais c'était vraiment la chose la plus importante, mm-hmm. jusqu'à exiger aujourd'hui une loi socle, étude de la Torah, qui serait censée superséder, je veux dire, être plus importante que toutes les autres lois, et qui permettrait en fait d'invoquer dans les lois de l'État d'Israël une raison religieuse pour laquelle un citoyen de cet État n'accomplirait pas ses devoirs comme les autres citoyens. C'est devenu quelque chose de complètement fou. Et je voudrais souligner, juste pour terminer, avant que vous me posiez d'autres questions, que au-delà donc de cette histoire, donc qui est quand même de ne pas faire l'armée, c'est devenu évidemment une façon de conserver ce monde ultra-orthodoxe, puisqu'il y a une véritable terreur d'aller à l'armée. Mais on a aussi inventé de toutes pièces un argument que vous ressortent systématiquement tous les étudiants de yeshiva à qui on dit « Pourquoi tu ne vas pas faire l'armée? Tu as l'air jeune et en bonne santé. » Il vous dit « Mais c'est mes prières qui font gagner la guerre. Si les étudiants de yeshiva n'étudiaient pas, il n'y aurait pas de victoire. Aujourd'hui, j'ai entendu un jeune qui disait que les soldats n'auraient même pas le droit d'exister, n'auraient même pas la possibilité d'exister si les étudiants de yeshiva ne priaient pas. Et donc, on a monté une espèce de raison morale qui vient venir être une raison supérieure, hein, une sorte de force majeure qui fait que si l'on voulait seulement toucher un cheveu d'un des 180 000 jeunes, mais enfin 56 000 en âge de faire l'armée, hein, qui pour une grande partie, faut quand même le dire, tiennent les murs dans les yeshivot, on imagine que aussitôt Tsahal s'effondrerait. J'ai entendu aujourd'hui un jeune me dire, dans le cadre d'un reportage que j'ai réalisé, que si les étudiants de yeshiva n'étudiaient pas, Tsahal et tout Israël s'effondreraient. Et ils y croient, dur comme fer. Donc ça, on a quand même créé ça, Yaël, et c'est extrêmement problématique.
Alors, selon vous, parce qu'on a entendu les manifestations qu'il y a eu la semaine dernière et les semaines précédentes, on ne bougera pas d'ici, on ne fera jamais l'armée, on préférera aller en prison, on préférera...
Ou prendre l'avion.
Oui, oui, ils ont dit on quittera le pays aussi. Bon, ok. Est-ce que vous avez le sentiment que... parce que jusqu'à présent, on disait Tsahal ne veut pas vraiment les Haredim, Tsahal n'en a pas besoin. Ça, aujourd'hui, un, on en a besoin, et deux, maintenant, comme vous dites, stop. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de les intégrer, en fait, à la société israélienne, puisque là, ils sont en marge de la société. Et surtout, est-ce que cet endoctrinement dont vous parlez va changer, parce que c'est quelque chose qui est, je veux dire, un soldat qui fait l'armée, il a le droit de ne pas rentrer en uniforme pour ne pas se faire lyncher en arrivant dans certains quartiers chauds de Mea Shearim ou de Bnei Brak. Donc est-ce que vous pensez que ça va changer aussi dans la tête des gens, dans l'éducation qu'ils reçoivent à la maison?
Alors ça pourrait changer, il faut comprendre que le monde ultra-orthodoxe est extrêmement, beaucoup plus varié, beaucoup plus fluide que ce qu'on peut imaginer. D'abord, il y a des marges de 15 à 20% de la population ultra-orthodoxe qui va quitter le mode de vie religieux. C'est d'ailleurs la plus grande partie des recrues du bataillon Netzach Yehuda, qui est donc le bataillon qui a été créé pour les soldats ultra-orthodoxes, pour lesquels la seule condition pour y rentrer est d'avoir été 2 ans dans une école haredi pendant sa scolarité entre 13 ans et 18 ans. Donc il y a énormément de jeunes qui étaient un petit peu en décrochage scolaire ou de familles dont les parents ont fait teshuva, mais où eux, ça ne les intéresse pas. Donc c'est pas vraiment des bataillons ultra-orthodoxes. Je pense que tout simplement, ces âges vraiment critiques, entre 18 et 25 ans aujourd'hui, mais bon, 22, 23 ans, sont justement des âges où on forge sa personnalité. C'est vrai que quand on a connu que des écoles ultra-orthodoxes, depuis 2 ans, depuis l'âge du Haider, jusqu'à 18 ans, donc ce qu'on appelle la yeshiva Gdola, enfin 19 ans normalement, on a très très peur du monde extérieur, et il y a une véritable terreur d'être sécularisé de force, ça veut dire de rentrer à l'armée et qu'on vous empêche d'être haredi, qu'on touche à votre mode de vie, surtout si on vous présente...
Qu'est-ce que ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça montre aussi sur leur mode, enfin, leurs convictions peuvent rester les mêmes convictions, personne ne va jouer avec leur cerveau, et si c'est le cas, bah, ça veut peut-être dire que les convictions n'étaient pas aussi fermes qu'elles le paraissaient.
Ou c'est moins... c'est l'idée qu'ils se font, parce que c'est ce qu'on leur raconte. Enfin, après, on est, vous savez, un enfant, il sait ce qu'on lui raconte. Le problème en Israël de la séparation du système scolaire en 4 secteurs séparés, c'est qu'un enfant issu du secteur ultra-orthodoxe ne rencontrera jamais d'autres enfants différents de lui. Alors, il le voit à la Coupe Patrolim, c'est le grand endroit où Israël se brasse. Au supermarché, même pas, puisqu'ils ont leur propre supermarché, leur propre quartier. Donc, il n'y a que le système de santé. Donc, il y a une véritable terreur, et c'est ce qu'on leur raconte. On va vous obliger à manger pas cachère, on va vous dire d'enlever votre kippa, on va vous obliger à raser votre barbe, etc. Comment savoir que ce n'est pas vrai si on ne vous le dit pas? Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Cela étant, je pense qu'avec un travail intelligent et une conscription obligatoire, Tsahal dit à mots couverts qu'il se contenterait... alors on n'a pas parlé des chiffres, Yaël, mais en gros, c'est chaque
rapidement.
Année... Oui, très rapidement. C'est à peu près 12 000 jeunes gens de la société ultra-orthodoxe qui sont mobilisables chaque année. D'accord ? Donc 12 000. Sur ceux-là, il y en a 1 200. Qui sont donc mobilisés sur les fameux bataillons de Netzach Yehuda. Et on estime que des vrais soldats vraiment issus du monde ultra-orthodoxe, il y en a 300. Voilà, donc c'est vraiment très très peu sur 12 000, on se rend bien compte. Mais on pense que si on faisait les choses de façon plus intelligente, si on leur créait vraiment les conditions qu'il faut, si on pouvait leur prouver que la nourriture est cachère, si on pouvait leur prouver que... Alors en plus, ils demandent à ne pas avoir de femmes, etc. Ce serait possible. Je pense qu'il y a un énorme travail de Hasbara, d'accord, interne. Il faut des rabbins qui soient ouverts d'esprit, il faut des rabbins qui puissent leur expliquer. Il y a évidemment des gens qui ne seront jamais mobilisables. On n'imagine pas non plus la police aller les chercher chez eux. Mais je pense que le message qui est envoyé par la société israélienne, par la Cour suprême, par les députés, par la colère des citoyens, par tous ceux qui servent dans l'armée, est un message très puissant et très important. On n'arrête pas de dire que la société ultra-orthodoxe traverse un processus d'israélisation. eh bien, c'est exactement ça, c'est l'incarnation de ce processus. Il faut aussi participer au service militaire. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais en tout cas, le message est très, très clair. Et il est évident qu'on a atteint un point de non-retour. Et dernière phrase, c'est l'échec cuisant du gouvernement le plus à droite, le plus religieux, le plus conservateur de l'histoire d'Israël. Les ultra-orthodoxes pensaient qu'ils allaient obtenir tous leurs rêves, tout ce qu'ils avaient demandé, tous les budgets et toutes leurs conditions, et regardez le boomerang.
Yael Ifra, merci pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français.
Merci Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Vous êtes notre ami et confrère journaliste spécialiste, entre autres, de la politique israélienne. Une conférence de presse qui était nécessaire de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que vous en avez retenu de particulièrement primordial ? C'est-à-dire de quelque chose qu'il fallait absolument qu'il soit dit aujourd'hui ?
Je dirais que le Premier ministre sent que les tensions se crispent, augmentent au sein de l'opinion publique israélienne, que le désespoir remplit, et peut-être à juste titre, les familles des otages qui souhaitent faire entendre leur voix. Et donc Benjamin Netanyahou a organisé cette conférence de presse pour en quelque sorte les rassurer sur ses intentions, sa volonté de faire libérer l'ensemble des otages israéliens. Et il a expliqué, comme il l'explique depuis déjà 5 mois, maintenant 6 mois même, sa méthode. Aucun compromis accordé au Hamas, stratégie qui repose sur une pression militaire constante sur le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza, et des négociations qui sont menées à la fois avec les médiations qataries et égyptiennes, avec bien évidemment l'aide américaine et européenne. Donc Benjamin Netanyahou a essayé en quelque sorte de rassurer l'opinion publique israélienne, même si toutefois il existe aujourd'hui beaucoup de foyers de tension au sein de cette opinion publique israélienne.
Beaucoup de tension aussi au sein de la coalition, de l'opposition évidemment, avec cette réaction immédiate de Yair Lapid qui affirme que Netanyahou fait tout pour la politique et rien pour le pays, mais aussi au sein de la coalition, des voix qui se font entendre de plus en plus ces derniers jours. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou a un avenir encore politique certain?
Je dirais qu'au regard des sondages et au regard de cette volonté aussi affichée par Benjamin Netanyahou d'afficher une fermeté face aux exigences folles du Hamas, cela rassure le public israélien. Alors il y a la question de Rafah qui reste en suspens. Sur cette question de Rafah, Benjamin Netanyahou est attendu au tournant, au fil des semaines, même au fil des mois, si l'armée israélienne ne venait à encore repousser cette opération de Rafah en raison de l'équation, je dirais, humanitaire de cette population, de ce 1,5 million de Gazaouis qui sont présents dans cette zone humanitaire, alors il pourrait y avoir, je dirais, un danger pour Benjamin Netanyahou. Mais si l'on croit les dires du Premier ministre israélien, il y aura une opération à Rafah, il y aura de la fermeté affichée dans les négociations qui sont menées actuellement face au Hamas. Et il y a une volonté aussi de maintenir le cap au sein de la coalition, même si Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont des velléités de sortie dans un avenir proche.
Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'opinion israélienne est satisfaite d'avoir récupéré un peu moins de la moitié des otages, de savoir qu'il y a encore 134 personnes qui sont toujours dans les geôles du Hamas, sachant que aujourd'hui des voix s'élèvent en disant qu'il faut même tout accepter, tout donner, mais les récupérer le plus rapidement possible. Et Netanyahou et Tzahal insistent sur les victoires qui sont vraiment importantes, mais les victoires militaires et l'importance de la continuité de cette opération militaire, et notamment à Rafah. On est revenu vers l'hôpital Shifa où on a trouvé un véritable QG, il n'y a pas d'autre mot. On a besoin d'une opération militaire, on en avait besoin a priori depuis très 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 longtemps, mais aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est des bonnes nouvelles, de savoir que les gens reviennent et de savoir que les familles se recomposent.
Oui, l'opinion publique israélienne sera sans pitié. Elle sera sans pitié et elle attend au tournant l'ensemble des responsables politiques du pays. Exemple, ce qui s'est passé jeudi lors des primaires du parti Yesh Atid, où tout le monde pensait que Yair Lapid allait gagner haut la main. Il a gagné avec 30 voix d'écart. Ouais. C'est un petit exemple dans l'océan d'attentes légitimes qui sont exprimées aujourd'hui par l'opinion publique israélienne. Donc elle sera sans pitié. Elle attend Benjamin Netanyahou d'obtenir tout simplement la victoire sur le Hamas, de ramener l'ensemble des otages israéliens morts ou vivants, on l'espère, le plus de vivants possible. Elle attend une réponse aussi dans le nord, face au Hezbollah, de voir retourner chez eux ces 60 000, 70 000 personnes qui sont réfugiées dans leur pays. Des réponses en vue de la rentrée scolaire prochaine pour les habitants des localités israéliennes qui se trouvent proches de la bande de Gaza, d'assurer leur sécurité. Donc je crois que sur l'ensemble des questions, l'opinion publique israélienne sera intransigeante. Maintenant, sur l'autre partie de votre question, sur les concessions aussi à faire sur ces négociations, je pense que là aussi, il y a un juste milieu à avoir, de ne pas céder à toutes les exigences du Hamas, d'afficher bien évidemment une certaine fermeté. Et il y a des discussions qui sont menées, notamment sur le retour de la population gazaoui dans le nord de la bande de Gaza, des discussions qui sont menées ce soir au sein du cabinet de guerre, mais avec le chef du Mossad, Dedi Barnea. Là aussi, même s'il y a un intérêt sécuritaire, comme nous l'a expliqué Benjamin Netanyahou ce soir, là aussi, peut-être qu'il y a une sorte de compromis à faire sur cette question. Mais là aussi, ce sont des questions assez sensibles pour l'ensemble de l'opinion publique israélienne.
La suite, vous pensez que Benjamin Netanyahou va se réveiller de son opération, qui est une opération bénigne. Hein,
on l'espère.
Non, va se réveiller. Évidemment, on espère tous qu'il va se réveiller quand même. Mais va se réveiller de cette opération, prendre 24 heures de repos et retourner au travail comme si de rien n'était.
Il n'a pas le choix. Le pays est en guerre.
Il n'est pas le seul à gérer le pays. C'est-à-dire que si Benjamin Netanyahou n'est plus là, en fait, c'est un peu la mégalomanie de Netanyahou lui-même de penser que s'il n'est pas là, le pays va tomber en ruine.
Disons qu'aujourd'hui, au regard de sa fonction de premier ministre, il a des décisions à prendre. Et je vous rappelle que lorsque Ariel Sharon avait fait son accident vasculaire cérébral, le pays avait connu quelques semaines de turbulences, et cela peut-être provoquerait, dans un scénario que l'on ne souhaite pas, cela provoquerait une déstabilisation du pays à un moment où le pays n'a pas besoin d'être déstabilisé. Déjà, le pays essaie de se remettre du traumatisme.
On n'a pas commencé, je crois. Sincèrement, voilà. Je pense qu'on n'est même pas au début. Enfin, tant que les otages ne sont pas rentrés, on ne peut pas même entamer, à mon avis, le processus réel de deuil. Enfin, c'est même pas envisageable.
Complètement, déjà, d'obtenir des victoires militaires, d'aller chercher les dirigeants du Hamas. Il y a encore un travail énorme qui doit être effectué sur le terrain, sur la partie diplomatique, d'essayer de composer avec cette administration américaine. Donc ce qui attend Benjamin Netanyahou pour les prochains jours et les prochaines semaines, c'est assez phénoménal.
Un mot avant de nous quitter sur la loi de l'enrôlement et les récentes déclarations, et celle d'il y a tout à l'heure de Galiba Rav-Mira, la conseillère juridique du gouvernement, que à partir de demain, et c'est pas un poisson d'avril, il faut commencer à recruter à l'armée les ultra-orthodoxes et sinon arrêter de financer leur yeshivot. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est la patate chaude du gouvernement qui dure depuis 2018, qui a fait tomber le gouvernement Netanyahou au mois de décembre 2018 et qui a provoqué toute la série d'élections que l'on a connues, et que donc ce dossier n'a pas été résolu. Et il y a, je dirais, un manque de volonté criante sur ce dossier de la part de l'ensemble des acteurs de ce dossier. Il y a eu des discussions interminables entre Benjamin Netanyahou et les partis orthodoxes, mais là, Yael, on s'attaque à un monde qui est rigide sur cette question de l'enrôlement des élèves d'établissements talmudiques orthodoxes au sein de l'armée d'Israël. C'est une question idéologique, ils en font une question de principe. Donc pour essayer de bouger les lignes sur cette question centrale pour certains, qui est même vitale pour
pour l'autre partie de l'échiquier politique israélien, pour la partie gauche ou la partie centre de l'échiquier politique israélien, c'est, je dirais, inextricable. Faut-il une loi ? Peut-être, il y a une interrogation à se poser, faut-il obligatoirement une loi sur cette question ? Peut-être que cette question peut être résolue au cas par cas. Certains sont faits pour étudier la Torah, certains non. Alors si ces personnes ne sont pas faites pour étudier la Torah, il y a le marché du travail, il y a
le service national,
on le voit au sein des associations Zaka qui ont rendu un service énorme lors du 7 octobre et les jours qui ont suivi. Donc il y a tout un tas de solutions qui peuvent être envisagées pour régler cette question.
Non, mais par ailleurs, l'armée a besoin de milliers de nouveaux combattants. Mais là, c'est même plus seulement une question d'égalité ou pas.
Sur cette question, c'est que les partis orthodoxes font de cette question leur fonds de commerce électoral. Et ils utilisent cette question pour pouvoir augmenter leur capital électoral et ne cherchent pas à trouver des solutions. Maintenant, il y a aussi la position de la conseillère juridique au gouvernement qui aussi refuse toutes les solutions proposées par les membres du gouvernement actuel. Donc il y a une sorte de bataille de pouvoir entre Benjamin Netanyahou, Arié Dery et l'ensemble des cadres de la coalition avec la conseillère juridique au gouvernement. Ce dossier, à mon avis, il est inextricable si l'on en passe par la Knesset et par une loi. Ce dossier-là doit être résolu, à mon avis, au cas par cas. Peut-être je suis utopiste, mais je pense que cette question-là doit être résolue au cas par cas.
Je voudrais un dernier mot. Je sais que je vous ai dit que j'allais vous libérer, mais je voudrais quand même vous demander si vous pensez que avec ou sans les Américains, avec ou sans la pression internationale, Israël peut réellement tenir une activité militaire terrestre, aérienne et maritime d'ailleurs sur le très 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 long terme. J'ai pas encore même parlé du Hezbollah. Je parle pour l'instant juste de Gaza.
Je pense que le juge de paix se déroulera le mois de novembre 2024, le jour des élections présidentielles américaines. Et là, si Joe Biden est réélu, alors Benjamin Netanyahou peut-être reverra ses plans d'opération dans la bande de Gaza. On verra où on en sera d'ici le mois de novembre. Mais je pense que ce sera le juge de paix. Aujourd'hui, Israël mène des opérations, continue ses opérations dans la bande de Gaza. Il y a du travail à effectuer, notamment du côté des hôpitaux de la bande de Gaza, du côté de l'hôpital Shifa, où il y a des prises importantes, des prises de renseignements importantes qui font aussi avancer les négociations actuelles sur la libération des otages. Plus elle obtiendra des renseignements précieux, plus l'échelon politique accentuera la pression sur le Hamas, à mon avis. Concernant le dossier du Nord, là c'est un autre dossier. Le Liban, c'est un pays qui a une influence européenne, où la France a des intérêts importants, l'Europe a des intérêts importants, les États-Unis aussi ont des intérêts importants avec le Liban. Donc là, c'est un dossier qui est, à mon avis, à part, même si Hassan Nasrallah lit les deux dossiers du Front Nord et celui de la bande de Gaza.
Jonathan Serrero, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve très prochainement sur les ondes de Cannes en français.
Merci à vous.
חיפשתי את המילים שיעשו סדר ביי סדר, רציתי שתישארי אבל בסוף יצאת לי מהחדר. נשארתי לבדי עומד, חשבתי כל הלילה, זר הפרחים שלך הלך לפח, זה לא מגיע לי ולך, יש לנו זו את זה לאן נגיע, יש לנו זו את זה לאן נגיע.
שעושה לנו מעבר בנסיעה במבטים אני ידעתי שהכל יהיה בסדר ברגעים הכי יפים אחדנו כל הלילה בחלומות הכי גדולים לא חשבתי שנוהב ככה יש לנו זו את זה בסוף מגיע יש לנו זו את זה בסוף מגיע
d'habitude mais là je je les cacherai comme d'habitude.